Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Alors, dans cette troisième chronique de notre série sur la désinformation, et après avoir vu les mécanismes généreux, puis l'impact sur les entreprises, on entre aujourd'hui dans un terrain beaucoup plus large et beaucoup plus dangereux, la géopolitique de la désinformation. Parce que la désinformation n'est pas seulement un phénomène social, culturel, économique. C'est devenu un outil géopolitique, une arme. Voilà, une arme, une manière pour certains États, groupes ou acteurs étrangers d'influencer des sociétés entières, de déstabiliser des gouvernements, de polariser les populations ou même de manipuler des élections. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment cette guerre informationnelle fonctionne, pourquoi elle vise les démocraties, comment elle touche le Canada et surtout pourquoi elle affaiblit nos institutions sans faire le bruit. Alors, les conflits modernes ne se gagnent plus seulement avec des tanks, des avions ou des missiles. Ils se gagnent dans les esprits, dans les perceptions, dans la capacité à contrôler le récit public. On appelle ça la guerre cognitive ou bien la guerre informationnelle. Pourquoi ? Parce que qu'influencer une population est souvent plus efficace et beaucoup moins coûteux que d'attaquer des militaires. Alors, on peut affaiblir un pays en divisant sa population, affaiblissant la confiance envers le gouvernement, manipulant l'opinion publique, amplifiant les conflits sociaux, semant le doute sur les institutions, affaiblissant son économie, et tout ça sans tirer une seule balle. Et vraiment, il existe plusieurs grands producteurs de campagnes de désinformation à l'échelle mondiale, ce qu'on va parler sur les principaux acteurs de la désinfo géopolitique. La Russie utilise depuis plus d'une décennie des campagnes influence massivement pour interférer des actions ou bien des élections, amplifier des divisions raciales ou identitaires, de discréditer l'OTAN, affaiblir la confiance des citoyens dans leurs médias. Et les attaques ne visent jamais un seul pays. Elles visent la cohésion des démocraties occidentales. On a aussi la Chine, voilà. Méthode un peu différente. Plutôt que de créer le chaos, elle cherche à orienter le récit global, mettre en avant son modèle, banaliser la surveillance numérique, défendre ses intérêts économiques, affaiblir les critiques sur les droits humains, influencer la diaspora chinoise. Il y a la Corée du Nord, l'Iran, certains acteurs privés, plus ciblés mais très actifs. Ils cherchent souvent contourner les sanctions, influencer les débats locaux, déstabiliser des gouvernements rivaux. Et les plus grandes entreprises politiques privées, exemple Cambridge Analytica, un cas emblématique où la micro-civilisation publicitaire a permis de manipuler le comportement électoral de millions de personnes. La plupart suivent une structure simple, mais paradoxalement, diaboliquement efficace. On peut résumer ça en quatre étapes sur comment se déroule une campagne de désinformation. Alors, première chose, une création de contenu. Une vidéo truquée, un article inventé, un tweet sensationnel, statistiques falsifiées. Et puis, comme deuxième étape, ils font quoi? Comme une injection dans un réseau social. On publie via Focante, troll automatisé, page anonyme, plateforme très populaire, TikTok, Facebook, X, ancien Twitter. Et la troisième étape, qui est plus comme amplification artificielle, alors des bots, des fermes à clics ou des réseaux coordonnés à partage et commente en fait massivement pour donner l'impression que voilà, tout le monde en parle. Et puis, comme troisième étape qui a plus d'impact, c'est le ciblage émotionnel. On vise certains groupes, comme oppose politique, par exemple, jeunes, communautés marginalisées, groupes identitaires, électeurs indécis. On ne cherche pas à convaincre rationnellement. On cherche à provoquer une relation émotionnelle. Et quand la désinformation commence à circuler dans la société réelle, discussions, médias, manifestations, la campagne est réussie. Alors, il existe vraiment des exemples internationaux qui ont marqué l'histoire récente. Je peux dire en 2016, voilà, les élections américaines. La Russie a créé des milliers de fausses pages Facebook, certains pro-Trump, d'autres pro-Black Lives Matter, pour polariser un peu les communautés. Les contenus ont atteint 126 millions de personnes. Le Brexit au UK, au Royaume-Uni, où des milliers de fausses nouvelles ont circulé, notamment celles devises de l'Union européenne, voulaient interdire les bouilloires électriques britanniques, totalement faux, mais vraiment virales. Et puis, il y a en 2022, l'invasion de l'Ukraine. Avant même l'attaque militaire, la Russie avait déjà préparé une attaque informationnelle. Les Ukrainiens sont des nazis, l'OTAN prépare une offensive, l'Ukraine bombarde volontairement ses propres civils, et ces récits servent à justifier une guerre en brouillant la réalité. Je vais pas parler un peu de l'Afrique, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, car je vais être un peu sous réserve. Et si je reste sur le contexte plus canadien, alors si je pose vraiment la question « est-ce que le Canada est une cible ?», je peux répondre « absolument ». Le Canada est un pays stable, ouvert, démocratique, avec une forte diversité culturelle. Ce sont exactement les caractéristiques que les campagnes de désinformation cherchent à exploiter. Pourquoi ? Je peux dire, voici les principales en fait, vulnérabilités, car la question de l'immigration, c'est la thématique la plus ciblée. Des camps étrangers diffusent régulièrement des fausses statistiques, des vidéos truquées, des narratifs alarmistes. Le Canada va être submergé, des rumeurs visant les réfugiés. Et puis les tensions avec la Chine. La diaspora chinoise au Canada est régulièrement exposée à des campagnes d'influence visant à, par exemple, intimider certains militants, affaiblir les critiques contre le Pékin, influencer certaines communautés. Il y a aussi le débat énergétique comme pétrole, pipeline, taxe carbone. Alors des campagnes de désinformation ont été détectées visant à influencer le débat national. Et le Québec comme terrain sensible. Le Québec est aussi une cible privilégiée pour deux raisons. Sa forte identité culturelle, sa sensibilité au débat identitaire. Créer une division au Québec, c'est diviser le Canada. Pourquoi les démocraties sont-elles vraiment vulnérables alors que c'est une question fondamentale, je la vois. Parce que dans une démocratie, je peux dire, l'information circule librement. Les médias sont ouverts, les critiques sont... la critique est permise. Et puis, les réseaux sociaux sont très utilisés. Le pluralisme d'opinion est valorisé. Ce sont des forces. Ce sont vraiment des forces, mais dans une guerre informationnelle hybride, ce sont aussi des faiblesses. Une société ouverte est plus facile à infiltrer qu'une société autoritaire. Et surtout, la désinformation peut influencer les élections, donc influencer les décisions politiques et donc influencer l'avenir d'un pays sans aucune intervention militaire. Alors, c'était ça un peu notre deuxième chronique, notre troisième chronique qui porte un peu sur la désinformation géopolitique, que je la vois comme une forme la plus dangereuse du phénomène parce qu'elle ne se contente pas de manipuler. Elle structure notre vision. Elle influence, modifie, fragilise, encourage les extrêmes, affaiblit notre cohésion sociale. Et la grande question, sommes-nous vraiment prêts à cette forme de guerre? Une guerre où l'objectif n'est plus d'enquérir un territoire, mais de conquérir une perception où vraiment l'ennemi n'arrive pas avec des chars, avec des voitures, mais avec des tweets, avec des vidéos, des récits. On n'a pas choisi cette guerre, mais on y est. on y est. Et la comprendre, c'est déjà un pas pour mieux s'en protéger. Alors, c'était ça notre troisième chronique en ce qui concerne la géopolitique. On va juste entamer avec une courte pause musicale directe, Scorpions, Wind of Change, et puis direct sur la quatrième chronique, comment lutter contre la désinfo. Alors, c'était ça notre troisième chronique, courte pause sur les ondes de CFA 88.3.